الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما سمعتم في البرنامج سنتحدث ce jour sur un hadith parmi les hadiths de notre vénérable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une lumière parmi les lumières émanant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de commencer, je veux rappeler l'importance de ce genre d'assises, parce qu'il ne faut aucun doute que pour aller jusqu'au bout, il va falloir être résistant. Et pour être résistant, il faut connaître la valeur de ce qu'on recherche, parce que c'est ça qui nous permet de résister, de tenir. Déjà, comme nous l'avons dit hier, quel que soit ce qui occupe l'être humain, cela en réalité le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que notre vie se résume à notre temps d'existence. Chacun d'entre nous rencontrera son Seigneur. Chacun d'entre nous mourra d'un moment à l'autre. Et chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque geste qui passe nous rapproche de la tombe. Ça veut dire que le temps nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel que soit ce qui t'occupe, en réalité, cela te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça t'occupe et ça tue le temps. Ça veut dire que le temps de ton existence diminue. Même si c'est le sommeil, même si c'est la nourriture, quel que soit ce qui t'occupe, en réalité, ça te ramène auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala à la rencontre de ton Seigneur. Et qu'y a-t-il de plus beau que ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala soit une cause parmi les causes de la guidée, de l'accès au paradis, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. Dans ce récit authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lise la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et te l'enseigne les uns les autres. Médite sur les propos de la révélation, sur les textes de la révélation, illa sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse descendre sur eux la quiétude et sans que les anges ne les entourent et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les couvre par sa miséricorde et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges. Mais généralement, quand on récite ce hadith, les gens ne comprennent pas la valeur de cette dernière phrase. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Vous savez ce qu'on bénéficie quand on est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala auprès des anges? Naam, vous savez ce qu'on bénéficie? قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم نعم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. C'est lui qui prie sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire يصلي عليكم? Comme Abu Ali l'a expliqué et bien d'autres savants, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne auprès des anges. Et la mention des anges, c'est que les anges invoquent Allah pour nous. Allah nous mentionne auprès des anges et les anges invoquent Allah pour nous. C'est quoi la conséquence? Ce que cela produit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sort des ténèbres vers la lumière. فَاسْتَشْئِرُوا يَا أَحِبَّتِي بِهَذِي النِّعْمَةِ. Ressentez donc ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on se retrouve dans une maison parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons occupés par la recherche de la science, et que ce soit cette chose-là qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, que pendant ce moment, qui en réalité qui est un temps parmi un temps d'existence qui s'écoule et qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une chose noble qui nous occupe. Parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer sur les textes de la révélation. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan il a dit, Allahu Akbar. Il dit, quiconque emprunte un chemin, n'a qu'il rafissia et char, vide le monde. Allah dit, quiconque emprunte un chemin, quel que soit le chemin emprunté, yaltamisu fihi ilman. Et qu'il recherche à travers ce chemin emprunté la science, quel que soit le chemin. Aller au Soudan, au Tchad, en Arabie Saoudite. À partir du moment où c'est un chemin, se rendre à la mosquée. À partir du moment où c'est un chemin qu'il a emprunté. Parce qu'il peut faire la différence entre vouloir une chose et emprunter le chemin qui permet de concrétiser cette chose-là. Beaucoup de ceux qui sont en train de travailler en ce moment, qui sont en train de vaquer à leurs occupations, aiment la science, mais seulement ils n'ont pas emprunté le chemin de la science. C'est pour ça que le prophète sallam a été explicite. Il ne suffit pas seulement d'aimer la science, mais il faut également emprunter le chemin qui permet d'accéder à la science. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran, a fait la différence entre le vœu et l'empreinte du chemin qui permet de concrétiser ce vœu. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فإرادة الآخرة شيء والسعي شيء آخر ولا بد من اجتماع الأمرين حتى ينجو الإنسان ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. Quiconque veut la dernière demeure, c'est-à-dire quiconque aspire à échapper au feu de l'enfer et accéder au paradis, quiconque aspire à accéder à l'agrément d'Allah et emprunte le chemin qui permet d'accéder à l'agrément d'Allah, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Et il faut que les deux soient unis pour bénéficier des mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala dit man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Il ne suffit pas seulement d'aimer ce genre d'assises. Il faut également emprunter le chemin qui permet d'être de ceux qui assistent à ce genre d'assises. Mansalaka tariqan, quiconque empruntera un chemin, quel que soit le chemin emprunté, à partir du moment où c'est un chemin qui permet d'accéder à la science. Yaltamisu fihi ilman, et après avoir emprunté ce chemin, qu'il recherche à travers l'empreinte de ce chemin la science, une science. Ilman nakira fi siyar ash-shar. Yurid al-umum. À partir du moment où il a emprunté ce chemin et recherche une science, wal murad bil ilm huna al-ilm ash-shar'i. Non, la science est légiférée. Quelle que soit la spécialité, à partir du moment où c'est une science légiférée. سهل الله له به طريقا الى الجنه الله سبحانه وتعالى في فاسيلي اختراع فاسيلي هو نا لاكسي او باراجي كما الله سبحانه وتعالى في فاسيلي لاكسي او باراجي كان يجي دوم سي سي اون اسيز او كو دو لاكيل اون فا بارلي دي شوز كي بيرميت d'être à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être éloigné du feu de l'enfer pour accéder au paradis. Comme pour vous dire, chers frères et sœurs en islam, que si nous sommes ici, nous ne sommes pas là pour tuer le temps. C'est ceux qui ne sont pas ici ou alors qui ne sont pas dans ce genre d'assises qui sont en train de tuer le temps. Quant à nous, nous sommes en train d'utiliser le temps pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé l'adoration. Parce que rechercher la science islamique est un acte d'adoration. S'asseoir dans les maisons, parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour méditer sur les textes de la révélation, fait partie du but de la création et fait partie des choses qui entrent dans l'entretien des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ces maisons ont été érigées, les mosquées, c'est pour qu'on y adore Allah subhanahu wa ta'ala. Que ces maisons soient entretenues par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais des actes comme ceux-ci, la recherche de la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Et je vais finir par le hadith d'Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu que j'avais déjà cité hier, parce que c'est toujours bon de rappeler ce hadith. Vous savez que nous avons tous un grand problème, le problème de l'intention. C'est un problème sérieux et chacun se doit d'être attentif par rapport à ce problème. On doit renouveler l'intention. On doit renouveler l'intention et purifier son intention. Et chaque fois qu'on sent que le diable veut qu'on dérape, qu'on change d'intention, on doit renouveler cette intention. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man rada ila al-masjid. Rada, khalas, rada ila al-masjid. Ma arada faqat, rada, c'est comme on dit, man salaka tariqan. Je ne vais pas seulement d'aimer, de vouloir. Il y a des personnes qui aiment les assises des sciences. Quand tu les entends parler, tu sens qu'ils aiment les assises des sciences. Mais s'ils ont emprunté le chemin qui leur permet d'accéder à la science, de faire partie de ceux qui ont emprunté le chemin de la science. Le prophète dit, quiconque emprunte le chemin de la mosquée. Quiconque emprunte le chemin de la mosquée. La yuridu illa an yata'allama khayran wa yu'allima. N'ayant pour cette intention que par le biais de cet emprunt, et en de cet emprunt du chemin, que d'apprendre un bien ou de l'enseigner. Savez-vous ce que c'est que le bien? Non? Il faut revenir au hadith de Hudhayfa radiallahu anhu. Ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyyatin wa sharr. فجاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا الخير فالإسلام هو الخير المطلق الإسلام c'est le bien absolu. Donc quiconque emprunte le chemin de la mosquée n'ayant pour seule intention que d'apprendre l'islam ou de l'enseigner, Allah سبحانه وتعالى par cela lui accorde la récompense de celui qui a parfait son pèlerinage, qui n'est d'autre que le paradis. Subhanallah, ya ikhwa ta'ammalu fi shay. Muhim jiddan. Méditez sur une chose importante dans ce verset, dans ce hadith, et le hadith que nous avons cité précédemment. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, et qui finit par accéder à cette séance? Il lui suffit d'avoir une bonne intention et d'emprunter le chemin, parce que c'est ça la cause. Après, la conséquence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne la science à qui il veut. Et il donne cette science par degré. Les gens n'ont pas tous les mêmes niveaux. Pas parce qu'ils n'ont pas fourni les mêmes efforts. Il se peut que d'autres fournissent plus d'efforts. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à d'autres plus de science. Et tout cela, c'est à partir de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que le plus important, c'est de faire la cause. Et la conséquence dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous incombe, c'est les causes. C'est qu'après avoir aimé la science, le chemin de la science, que tu empruntes ce chemin avec l'intention d'apprendre. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. D'emprunter le chemin, de faire les efforts. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera et te facilitera l'accès au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui sont sortis de chez eux, n'ayant pour seule intention que d'apprendre un bien ou de l'enseigner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nos frères qui ont contribué à la concrétisation de cette assise, qui ont voulu que les choses se passent bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la concrétisation de cette assise. Pour revenir au hadith que nous allons expliquer, qui va nous entretenir pendant le séminaire, qui est le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, qui est le 29e hadith parmi les hadiths cités par l'imam Nawawi rahimahullah dans son livre intitulé Al-Arba'ina ou Al-Arba'una Al-Nawawiya, le 40 hadith de Nawawi rahimahullah. Pour comprendre l'importance de ce hadith, avant même de passer à l'explication du hadith, le simple fait, et retenez, c'est une règle, le simple fait qu'un hadith se retrouve dans les 40 hadiths de Nawawi montre que c'est un hadith important. Parce que l'imam Nawawi, dans son livre, dans ce livre, a voulu regrouper les récits prophétiques sur lesquels repose la religion. C'est pour ça qu'en réalité, celui qui maîtrise les 40 hadiths de l'imam Nawawi, ou alors les 5 ans, c'est combien de hadiths? Non. Les 5 ans? 5 ans? 51. Qui est d'accord avec lui? Non? Les 42. Non? L'imam An-Nawawi 42 et l'imam Ibn Rajab 50. L'imam Ibn Rajab a complété à 50. Pourquoi est-ce que l'imam Ibn Rajab a complété? Parce qu'il a vu, il est parti sur la base sur laquelle est parti l'imam Nawawi. Il a vu qu'il y avait certains hadiths qui remplissaient les mêmes conditions qui ne se sont pas retrouvées dans l'imam Nawawi. Il a voulu compléter ces hadiths à 50. Voilà pour les hadiths, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que tous ces 50 hadiths sont des hadiths importants. C'est pour ça que parmi ces hadiths, il y a des hadiths qui ont été qualifiés par les savants comme la moitié de la religion. Les hadiths sur lesquels se repose la religion. Voilà les hadiths qui ont été regroupés par l'imam An-Nawawi dans son livre. Voilà pourquoi l'un des savants qui ont expliqué les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, il dit, qui est Ad-Dimyati, rahimahullah, il dit, هذا الحديث قاعدة عظيمة متينة. Dit que ce hadith que nous allons étudier est en réalité une règle fondamentale. Non? Grande, متينة. pour nous montrer l'importance de ce hadith. Quand on médite sur le sujet traité dans le hadith, on comprend que le cheikh a raison, rahimahullah, et que c'est ainsi. Yahi, quelqu'un qui demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, dullani ala amalin, dullani ala amalin, yubaiduni alinnar, wa yudkhilani aljannah. Oriente-moi vers un travail. Une œuvre qui m'éloignera du feu de l'enfer et qui me permettra d'accéder au paradis. وهذا في الحقيقة والفوز العظيم. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Quiconque est épargné du feu de l'enfer et introduit au paradis, certes aura réussi. C'est ça la réussite absolue. C'est échapper au feu de l'enfer et accéder au paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Et la vie mondaine ne se va mondaine qu'une existence éphémère. Ça veut dire que quoi? Que la vie de celui Naam, qui ne réussit pas de cette réussite n'est qu'une existence éphémère. Une vie dépourvue du but de la création qui ne permet pas d'être éloigné du feu de l'enfer, qui ne permet pas d'accéder au paradis, n'est qu'une jouissance éphémère. C'est pour ça que certaines personnes qui pensent être heureux ici sur terre ne le sont pas. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait le bonheur? Qu'est-ce qui fait le bonheur? Non? La foi, mais pourquoi est-ce qu'on dit du bonheur que c'est un bonheur? Je repose la question, pourquoi est-ce qu'on dit du bonheur que c'est le bonheur? Autrement dit, est-ce qu'un bonheur qui engendre le malheur est un bonheur? Je veux vous expliquer. Est-ce que la voiture n'est pas un bien? Non? Est-ce qu'une voiture qui sera la cause de la mort de son propriétaire est un bonheur pour lui? Non? Parce qu'à la fin, cette voiture même-là l'a tué. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en réalité, cette voiture pour lui n'est pas un bien. Ça veut dire que qu'est-ce qui définit le bien? C'est la fin. C'est la fin. C'est ce vers quoi ce bien mène. Si ça conduit au bonheur absolu, on dira que c'est un bien. Et si ça conduit au malheur absolu, on dira que c'est un malheur, même si pour les gens c'est un bien. C'est pour ça que le bien illicite est un mal. Alors que c'est l'argent, on peut s'acheter de la voiture avec, on peut se construire. Mais en réalité, ce bien conduit en enfer. Donc en réalité, c'est un mal. Donc la vie de celui qui ne lui permet pas d'échapper au feu de l'enfer et d'accéder au paradis, non, c'est une jouissance, mais une jouissance éphémère. Parce que c'est une jouissance d'une courte durée qui va engendrer, non, un châtiment éternel. Donc, en réalité, c'est lui qui vit sans comprendre ce hadith. Sans vivre à la lumière de ce hadith, sa vie ne peut qu'être une jouissance éphémère et qui engendrera un châtiment éternel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour ça que Mu'ad a posé cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, dans cette assise, on va suivre une méthodologie. On va lire le hadith et on va sortir les règles de la science, de la charia, les règles de la charia qu'on peut tirer de ce hadith. Ensuite, on va citer les leçons qu'on peut tirer des paroles que nous allons citer. Et ensuite, ou alors avant de passer à tout cela, on va expliquer les mots difficiles pour ceux qui n'ont pas compris tous les mots de ces textes-là. Donc on va commencer par citer, quand on lit un hadith, quand on lit quelque chose, on va citer, on va expliquer le mot. Et quand on cite quelqu'un, on va dire qui il est. Par exemple, moi, l'auteur du hadith, on ne peut pas parler du hadith sans parler de lui. Et on va citer on va expliquer les mots difficiles. Ensuite, on va citer les kawaii qu'on peut tirer de chaque paragraphe que nous allons réciter. Et ensuite, nous allons tirer les leçons. Nous allons citer les leçons qu'on peut tirer. Wa wallahi alladhi la ilaha ghayru. Même si on nous accordait une semaine, non un mois, non un an, on ne pourrait pas tout dire par rapport à ce hadith. Mais, comme nous avons dit hier, Al-Labibu, bil isharati, yafham. Le Dieu d'intelligence à travers les indications comprend. Donc ce que nous allons faire, c'est donner des indications à travers les règles qu'on peut tirer de ce hadith, à travers les leçons qu'on tire de ce, les enseignements qu'on tire de ce hadith, et on espère qu'à travers ces kawaii, à travers ces leçons, nous allons comprendre la quintessence de ce hadith et pouvoir par la suite vivre à la lumière de ce hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Oui. Déjà, il faut retenir que ce hadith est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. Maintenant, Mu'adh radiallahu anhu, qui est le rapporteur du hadith parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne peut pas parler de tous les rapporteurs, on va parler de toutes les personnes de la chaîne de transmission, ou alors des chaînes de transmission de ce hadith. On va se contenter de parler de Mu'adh radiallahu anhu, qui est le rapporteur du prophète Muhammad, qui est celui qui a rapporté ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huwa Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws الأنصاري الخزرجي المدني البدري أبو عبد الرحمن سكونيا. Donc son nom c'est Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh fils de Jabal. Ibn Amr fils de Amr. Ibn Aws fils de Aws. الأنصاري. Quand vous entendez cette nisba, Al-Ansari, c'est une nisba, qu'on appelle une affiliation, soit à la tribu, soit à un pays, soit à une contrée. Al-Ansari, ça veut dire que Mu'adh était un Ansar. Il fait partie de ceux qui ont accueilli le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont émigré de la Mecque pour Médine. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a qualifié des Ansar, ceux qui ont soutenu la révélation. Ceux qui ont soutenu la révélation et tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des Ansar. Sauf que ceux de Médine avaient une particularité. C'est que lorsque ceux qui étaient à la Mecque étaient persécutés, en plus du fait que tous ceux qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soutenaient la révélation et soutenaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont émigré tous vers Médine, et ils ont été soutenus par ceux qui étaient à Médine. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés les Ansar. Sinon, à la base, tous les compagnons du prophète sont les Ansar. Mais pourquoi est-ce que ceux de Médine, Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés particulièrement des Ansar? C'est parce qu'ils avaient soutenu ceux qui ont été persécutés à cause de leur soutien apporté à la révélation, apporté au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mu'adh était un Ansar de la tribu des Khazraj. C'était un Khazraji. Et c'était un Badri. Hein? Vous savez pourquoi les savants prennent la peine de préciser quand quelqu'un est un Badri? Non? Quand c'est quelqu'un qui a assisté à la bataille de Badr. Ce n'est pas pour rien. Parce que le fait d'avoir assisté à la bataille de Badr dans l'islam a un jugement, ça a une sentence, ça a une implication. C'est que tous ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les avait agréés, ils ont été pardonnés et ils sont tous au paradis. C'est pour ça que dans l'histoire des Hatib, Ibn Abi Balta, radiallahu anhu, qui était un noble compagnon parmi les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait un plan d'attaque et se préparait à attaquer les gens de la Mecque pour purifier la terre sainte du polythéisme et de l'idolâtrie, Hatib ibn Abi Balta a eu un problème. Quel était le problème de Hatib? Hatib était issu d'une tribu faible et d'une famille faible. Et contrairement à d'autres compagnons qui avaient immigré avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient issus des tribus fortes et des grandes familles. Ce qui fait que leur famille qu'ils avaient laissée à la Mecque était protégée parce que les gens avaient peur d'eux. Ceux qui avaient laissé leurs femmes, leurs enfants, leurs proches, non, même ceux qui ne les aimaient pas, parce que leur mari était un compagnon du prophète Mohammed sallam, avaient peur de les attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient issus des familles fortes et des grandes tribus. Contrairement à Hatib, lui, il était issu d'une tribu modeste et d'une famille faible. Alors il s'est dit que si le prophète attaque les gens de la Mecque, et puisque quand on parle d'attaque et de guerre et de bataille, à la fin, il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Et tout est possible. Les croyants peuvent être vaincus. Les croyants peuvent être vaincus, même comme cela ne peut être qu'une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des sagesses bien précises. Ça peut être à cause d'une désobéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qui s'est passé à la bataille de Uhud. Les compagnons avaient perdu la bataille et c'était à cause de la désobéissance. Donc Hatib s'est dit que si on attaque les gens, ça veut dire qu'en réalité c'est possible qu'on gagne et c'est possible qu'on perd. Et si on perd, tous les autres compagnons là sont issus des grandes familles, soit des grandes tribus. Leurs familles pourront être protégées. Mais moi, je ne serai pas, ma famille ne sera pas protégée. Il s'est alors dit que bon, pourquoi je prends la peine d'expliquer? Parce que quand on parle de l'histoire de Hatib, il faut toujours expliquer. Certains, parfois les gens ne comprennent pas. Saïf, il s'est dit que maintenant, il faut que je trouve un moyen d'avoir une raison chez les Qurayshites qui leur permettra, ou alors qui leur permettront de préserver ma famille si jamais on perd. Est-ce que ici Hatib veut trahir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a l'intention de vendre l'islam? Ce que lui, il a voulu faire, c'est avoir une considération auprès des Quraysh. Comme ça, si jamais il perd la bataille, les Quraysh pourraient se baser sur cette considération pour protéger sa famille. Alors, qu'est-ce que Hatib a décidé de faire? Il a décidé d'écrire aux Qurayshites et de leur livrer quelques secrets concernant ce que préparait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a fait. Et lui en faisant, étant croyant, il s'est dit qu'en réalité pour lui ça, ce n'est pas quelque chose qui pouvait influencer parce qu'il croyait au destin. Il dit que si les musulmans vont gagner, ils vont gagner. Et s'ils doivent perdre, ils doivent perdre. Donc moi je profite pour avoir une raison de protection chez les Quraysh si jamais on perd. Il a écrit donc au Quraysh. La révélation est descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui dire ce que Hatib avait fait. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les compagnons récupérer la lettre chez la personne chez qui la lettre se trouvait. Ils sont allés dépouiller la personne, ils ont pris la lettre. Quand on a ouvert la lettre, les compagnons se sont mis en colère. Et ont vu là un hypocrite. Pour eux, c'était un hypocrite. Quelqu'un qui ose livrer les secrets du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux ennemis. Et parmi les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est la gravité de ce genre. De ce genre d'acte, livrer les secrets des musulmans aux mécréants. Ceux qui n'attendent que la période d'un soutien pour frapper, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que, les ennemis de l'islam n'attendent que la période d'un soutien pour frapper les musulmans. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم الا يبوز غيرك كاين سول كونديسيون si vous suivez leur religion et si vous ne suivez pas leur religion non ils n'attendront que la période d'un soutien liyamilu alaykum maylan azima pour vous frapper durement طيب quand les compagnons se sont rendus compte à l'évidence, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également, il a convoqué Hatib. Omar a sorti son épée. Vous connaissez Omar? Radiallahu anhu. Il a sorti son épée. Vous savez que les compagnons n'avaient pas le même tempérament. C'est comme ça, les musulmans n'ont pas le même tempérament. Les prédicateurs n'ont pas le même tempérament. C'est naturel, c'est comme ça. C'est pour ça que nous avons toujours rappelé que le véritable croyant, le vrai musulman, c'est celui qui soumet son tempérament au test de la révélation, qui s'abandonne au test de la révélation pour que les tests font de lui ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas que tu sois quelqu'un qui se fâche, c'est que tu canalises ta colère par le kitab et la sunna. Le problème n'est pas que tu sois quelqu'un de trop fort physiquement, c'est que tu canalises ta force physique là par la charia et que tu ne frappes qu'une personne qui se doit d'être frappée du point de vue islamique. De même que pour celui qui est calme, qui est trop calme, c'est qu'il doit canaliser son calme et ne pas se taire quand il faut parler dans la charia. C'est ça qui fait problème. Et c'est pour ça que, regardez, Abou Bakr et Omar n'avaient pas les mêmes tempéraments. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendu cette religion par les deux. Pourtant, ils avaient un tempérament opposé. Abou Bakr était plus calme. Il était plus calme. Et Omar tendait vers la rudesse. La rudesse. Mais seulement il avait canalisé cela par la charia. Allah subhanahu wa ta'ala par sa rudesse a aidé l'islam et les musulmans. Et Omar et Abu Bakr radiallahu anhu étaient plus doux et calmes. Et il a canalisé sa douceur et son calme par la charia. Et c'est par cette douceur et ce calme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aidé les musulmans et l'islam. Comme vous dites, quel que soit ton tempérament, le plus important c'est que tu canalises ce tempérament par la charia. Donc, Omar a sorti l'épée. Est-ce qu'il a coupé? Pour qu'on comprenne le sens de la canalisation du tempérament par la charia, est-ce que quand il a sorti l'épée, il a tué? Il était prêt, mais il attendait l'autorisation, parce que c'est ce que la charia dit. Que tu ne dois pas agir en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans obtenir l'autorisation. Et que tu ne dois d'agir qu'à la lumière de des tests de la révélation. Voilà pourquoi il s'est adressé à Omar, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abri unuki, haf ibn Abi Balta. Il a dit, oh noble prophète, donne-moi l'autorisation de finir avec cet hypocrite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a calmé. Il a dit à Hatib, ma hada ya Hatib. Alors qu'il avait vu de ses yeux ce que Hatib a fait. C'est pour ça que quand on a un frère, un bon frère qu'on connaît, quelqu'un qui est connu pour avoir étudié, lorsqu'il pose un acte qui n'est pas clair, il faut émettre des réserves. On peut condamner l'acte, Mais ce n'est pas parce qu'il a posé l'acte qu'on doit mettre en garde contre lui et tirer sur lui directement. Il faut se rapprocher de lui. Lui demander ce qu'il a poussé à poser cet acte parce qu'il se peut qu'il ait une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des enseignements que nous tirons de l'histoire de Hatim. Parce que le prophète, alors qu'il avait déjà vu ce que Hatim a fait, il a déjà vu qu'il a écrit une lettre, il a reçu la révélation, il a vu qu'il a écrit une lettre en livrant ses saints secrets relatifs à ce qu'il préparait. Mais malgré ça, il a dit à Hatim, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Hatim a commencé par dire que Ya Rasulallah, je ne l'ai pas fait par mes croyants. Pour moi, ça c'est un débat clos. Je suis un croyant. Ça là, je ne l'ai pas fait par mes croyants. Et parce que je doutais de la véracité de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Ensuite, il a exposé sa raison. Comme Omar était toujours agité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ صَلَى عَلَى أَهْلِ الْبَدْرِ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Qui te dit? Et là, Allah, dans les textes de la révélation, c'est une affirmation. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala avait vu les gens qui ont assisté à la bataille de Badr et leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Et Mu'adh radiallahu anhu faisait partie de ces personnes-là, ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. C'est ça qui nous a conduit à tout ce que nous avons dit ici. L'importance, là, ou alors la place de ceux qui ont assisté à la bataille de Badr en islam. Et Mu'adh radiallahu anhu faisait partie de ces derniers, ceux-là qui ont assisté à la bataille de Badr. Il a vu Mu'adh ibn Jabal, ibn Amr ibn Aus, al-Ansari, al-Khazraji, al-Madani, al-Badri. Abu Abdirrahman, c'était sa kunya. Abu Abdirrahman. Aslama, wa huwa ibn 18 sana. Il a embrassé l'islam quand il avait 18 ans. شهد العقبة مع الأنصار السبعين وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب
للإخوة أم
طيب
أكمل ترجمة معاذ فقط.
بارك الله فيكم.
يعني أنا وضعت الشهادة أخشى يبدو.
طيب. طيب خلاص. أنا تركي دي pour parler de l'essence إن شاء الله. Et revenir continuer. Je voulais qu'on finisse avec la ترجمة de معاذ, mais le chef me signale qu'ils ont déjà installé les chaises. Et vous savez que si on finit avec la ترجمة, le chaise va se refroidir. بارك الله فيكم.
Alors moi, je ne peux pas lire ici, je ne peux pas lire.